Donc bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Dr Laure Magnan, qui est biologiste, expert de l'ingénierie tissulaire. Elle est aussi CSO, Chief Scientific Officer d'une superbe startup qui s'appelle Oxford Silk Page Technologies, comme son nom l'indique, basée à Oxford au Royaume-Uni, dont on a interviewé la CEO Stéphanie Lesage la semaine dernière. Vous pouvez voir ça sur la chaîne. Donc aujourd'hui on reçoit donc le Dr Laure Magnan pour parler de son parcours de scientifique, de chercheur dans le privé, la transition également qui s'est faite, comment vous avez fait cette transition et comment se fait votre travail au quotidien dans la biotech et aussi, bien sûr, maintenant avec le Covid, comment ça se passe. Bonjour Laure, comment allez-vous?
Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça va très bien. Il fait très beau, donc tout
Bah,
va
c'est parfait,
bien.
je suis ravi de vous recevoir.
Merci.
Alors, Laure, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours universitaire, ce que vous avez fait
Tout à fait. Comme vous l'avez dit, je suis CSO d'une start-up à Oxford. Mais avant d'en arriver là, j'étais pas du tout prédestinée à faire une carrière aussi longue dans la recherche. J'ai voulu en fait après le bac partir vers un DUT, qui a été une formation incroyable et je pense que ça a été une de mes formations, une de mes meilleures formations avec la thèse. Donc j'ai fait un DUT génie biologique option analyse biologique et biochimique à l'IUT de Laval. Suite à ça, j'avais la possibilité de faire une école d'ingénieur parce que quand on est dans le classement supérieur, on a le droit d'aller faire une école d'ingénieur. Et donc, je ne voulais pas aller faire une école d'ingénieur parce que pendant mon DUT, je me suis prise de passion pour l'ADN et la biologie moléculaire. Donc, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait un master à Bordeaux, un master génétique. Et donc, je me suis dit, comment je peux faire pour avoir accès à ce master? Donc, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait et étant bretonne d'origine, j'ai regardé aussi ce qui se passait en Bretagne. Et donc, j'ai été faire une troisième année de licence à Rennes en biologie cellulaire et moléculaire et aussi très axée génétique, ce qui m'a vraiment, vraiment bien servi en fait pour ensuite être en master génétique à Bordeaux. Alors, suite au master, en fait, donc en master 2, j'ai fait un super stage.
Je rappelle pour les quelques non-scientifiques qui nous regardaient, le Master 2, c'est l'équivalent de mon époque, le DEA, c'est vraiment le master qui vous emmène les étudiants vers la recherche.
C'est ça.
C'est-à-dire, on apprend la recherche par la recherche sur la paillasse avec des chercheurs. Donc voilà,
On a un stage d'environ 6 mois à faire en fin de master. Donc, il y avait aussi en master 1, en première année de master, il y avait un petit stage à faire. Donc là, j'ai commencé un peu à faire de la recherche, sachant que j'ai découvert le monde de la recherche plutôt pendant mon DUT. Parce que pendant mon DUT, en deuxième année, j'ai fait un stage au laboratoire de cytogénétique à l'hôpital de Rennes. Et donc, même si j'étais au sein de ce laboratoire, qui est un laboratoire de l'hôpital, j'ai fait de la recherche. Et j'ai trouvé ça passionnant, donc c'était super. Et en fait, suite à ce DUT, comme j'avais un diplôme professionnalisant, j'étais technicienne supérieure de laboratoire, j'ai pu travailler 4 ans d'affilée en tant que remplaçante technicienne l'été dans ce laboratoire-là. Et c'était formidable. C'était vraiment une expérience incroyable. Et donc ensuite, oui, donc j'ai fait ce stage de master 2 dans un super.
Je vous coupe encore une fois parce que vous avez parlé du DUT. Là, je le dis aussi aux quelques parents qui tomberaient par hasard sur l'émission. Les DUT scientifiques sont excellents. Moi, j'ai eu quelques copains qui nous avaient rejoints par la voie DUT. Ce sont devenus de brillants scientifiques par la suite. Donc, c'est vraiment une formation. En tout cas, c'est top, hein. Les DUT scientifiques sont excellents. Voilà, j'arrête de vous embêter.
C'est vraiment excellent parce que aussi ça a du sens. Ça a du sens parce que quand on arrive dans un vrai labo, ensuite on est prêt parce que tout ce qu'on apprend en théorie le lundi, mardi, admettons, on va le faire en pratique le reste de la semaine. C'est une formation qui est quand même assez dure. Moi, j'ai trouvé ça assez difficile. On était en contrôle continu tout le temps, donc on a vraiment beaucoup travaillé. Arrivé à la fac ensuite, donc là, gros changement. On avait une technique de travail en fait, donc ça n'a pas été dur d'aller à la fac du tout, parce qu'on était prêt pour ça. Et le DUT, J'en fais souvent les louanges parce que ça a été une formation incroyable et j'étais prête en fait à aller dans un laboratoire. Donc, ce qui fait que effectivement ensuite mes stages, j'ai fait des stages tous les ans et mon stage de master 2 a été le stage décisif parce que pour le coup j'ai vraiment fait de la recherche. J'étais toute seule à ma paillasse, aidée évidemment des thésards autour et puis de mes encadrants. Et c'est là où j'ai vraiment découvert ce que c'était travailler à la paillasse. Et alors pour l'anecdote, c'était au début de mon master, je disais à tout le monde, je ferai jamais de thèse, c'est pas possible, je ferai pas de thèse. Et en fait, pendant mon stage de master 2, je me suis rendu compte que j'aimais ça. Et après discussion avec plusieurs personnes, parce que je voulais savoir l'avis des gens et de mes encadrants, est-ce que j'ai les capacités de faire une thèse? Parce que c'est pas le tout de vouloir en faire une, mais il faut en être capable, parce que c'est dur et qu'il faut être quelque part, faut aimer ça, faut vraiment aimer ça pour pouvoir se tenir le coup pendant la thèse ensuite. Donc ils m'ont conseillé de faire une thèse. Il n'y avait pas de financement à ce moment-là dans le laboratoire et puis déjà en fait en ayant fait un master génétique, je voulais un peu m'écarter de cette parce que c'est très fondamental des fois. Et donc j'avais cette volonté d'aller plus vers l'appliqué, vers vraiment le concret. Alors même si le fondamental est absolument crucial parce qu'il n'y a pas
Bien
de
sûr.
recherche appliquée sans recherche fondamentale. Et donc j'ai eu l'occasion de postuler à un doctorat en ingénierie tissulaire. Donc, je n'y connaissais absolument rien dans le domaine cardiovasculaire. Donc, pareil, aucune connaissance. Mais j'avais fait beaucoup de cultures cellulaires. Et donc, c'est, je pense, ce qui a été décisif. Donc, j'ai commencé ce doctorat avec le docteur Nicolas Lheureux, qui est un pionnier et vraiment très connu dans son domaine. Et c'était la première fois en fait qu'il était directeur de recherche, directeur de thèse, puisqu'il a eu son entreprise pendant une vingtaine d'années aux États-Unis avant, et il a décidé ensuite de venir faire une carrière académique en France. Donc j'ai fait un doctorat assez particulier parce que on était tous les deux les petits nouveaux. Donc non seulement moi c'était la première fois que je faisais une thèse, et lui c'était la première fois qu'il dirigeait une thèse, et en plus on était tous les deux nouveaux au laboratoire. Donc,
En plus, c'est vraiment intéressant parce que s'il a été, on va dire, dirigeant de biotech, même son profil était atypique dans le monde de
exactement.
la recherche franco-française, parce qu'en fait, ce type de profil n'est pas atypique hein, dans le monde anglo-saxon, mais en France, vous le savez, on fait des carrières linéaires. Donc
Exactement, ouais.
là, ça devait être vraiment quelqu'un d'assez atypique dans votre
Ouais.
université ou dans vos laboratoires.
Je pense que c'est aussi le fait d'avoir Nicolas comme directeur de thèse qui m'a sûrement poussé à faire une carrière dans le privé ensuite. Donc parce que je suis arrivée au laboratoire, il n'y avait absolument rien. Il a fallu créer en fait l'équipe, donc l'équipe d'ingénierie titulaire. Donc ça a été au début un gros challenge parce qu'il a fallu tout créer depuis de A à Z en fait. Donc j'avais un peu tous les rôles parce que après la première année où j'étais vraiment toute seule avec Nicolas, on a commencé à recruter un peu d'autres personnes. Donc j'ai eu un peu le rôle de postdoc, d'ingénieur, de thésard, de plein de choses en même temps. Je pense que avec du recul maintenant, parce que c'est difficile d'en s'en rendre compte quand on est dans sa thèse, mais j'ai passé beaucoup de temps à aider les autres pendant ma thèse et c'est pour ça qu'à la fin j'ai eu la chance d'avoir en troisième année une ingénieure de recherche qui est incroyable, qui a été à mes côtés pendant toute la troisième année et ça m'a énormément aidée parce que sans elle ça aurait été vraiment très très compliqué. Donc voilà une thèse très atypique. Je me suis occupée des commandes. Voilà, j'ai comment. En fait, pour la petite anecdote, Nicolas m'appelait son cochon d'Inde parce que j'étais un peu le brouillon en vrai. Donc, j'ai essuyé les plâtres, j'ai fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire et ça a servi. Et maintenant, c'est devenu une super équipe. Ils sont beaucoup. Ça marche bien et franchement, ça fait plaisir en fait de se dire que j'ai participé à ça et c'est vraiment chouette. Donc voilà, mon doctorat, assez particulier et ce qui me sert en fait, ce qui m'a servi aujourd'hui, puisque comme on a donc créé une start-up en janvier 2020, mais finalement c'est retour à la création depuis le départ de quelque chose de nouveau.
Donc, rebâtir à zéro quelque chose qui a du fort potentiel. Alors justement, si je reviens sur cette transition, donc vous avez fait votre thèse sur un sujet qui est, comme on dit dans le jargon, hot topics, l'ingénierie tissulaire qui aujourd'hui est en train de boomer avec ou sans l'ingénierie cellulaire, les cellules souches. On a d'un côté des biomatériaux complètement dingues qui sont en train d'être inventés partout dans le monde. De l'autre côté, des progrès terribles sur les cellules souches, leur différenciation, la combinaison des deux. Enfin, c'est aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte de la révolution médicale qui va arriver dans les prochaines années. Vous étiez tracé, en fait, pour, avec une belle thèse, un beau sujet, à faire une carrière universitaire, postdoc. Et aujourd'hui, vous aurez pu, par exemple, être assistant professeur quelque part dans le monde. Et comment s'est fait la transition vers une biotech?
Alors, la transition vers la biotech, elle s'est fait un peu tout au cours de ma thèse, parce que, comme je le disais, j'ai pas eu une thèse vraiment académique au sens propre du terme. Et j'ai eu cette volonté de sortir un peu la tête du labo, voir ce qui se passait ailleurs. Et le fait que j'ai eu plusieurs stagiaires et puis qu'il y ait eu des gens qui arrivaient au fur et à mesure dans l'équipe, j'ai vraiment aimé ce côté management de l'équipe et faire travailler une équipe tous ensemble. Et je me suis beaucoup intéressée pendant ma thèse à découvrir le monde du privé, notamment grâce à l'association Aquidoc, dont on parlera plus
avec plaisir
tout à l'heure. Mais vraiment apprendre à construire mon réseau, apprendre qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour aller dans le privé. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'en France, on ne jure que par le postdoc. On nous dit qu'il faut aller faire un postdoc absolument, absolument, absolument. Et j'étais un peu, j'en avais un petit peu marre du monde académique. Je suis quelqu'un de très organisé, donc j'avais besoin d'un peu plus de structure. J'avais besoin aussi d'aller plus droit au but, des fois, dans l'académique. On part un peu dans tous les sens. Et puis, des fois, ça mène quelque part, et puis des fois, ça mène nulle part. Bon, après, c'est de la recherche, mais j'avais vraiment ce besoin d'aller vers un endroit. C'est un peu paradoxal parce que finalement, des fois, dans le privé, c'est ce qui est frustrant en tant que scientifique. C'est qu'on va vers un but bien précis. Et la curiosité scientifique fait que des fois, on a envie de tout savoir et on a envie de faire d'autres choses et on ne peut pas parce qu'il faut rester droit dans son sujet. Donc ça, c'est un petit côté un peu frustrant dans le privé, des fois. Mais sinon, donc... Voilà, pendant ma thèse à Aquidoc, j'ai aussi fait un parrainage entreprise étudiant organisé par la ville de Talence, qui était très enrichissant en fait. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à faire autre chose aussi que ma thèse purement et simplement, et j'ai trouvé ça génial parce que quand on arrive à la fin de sa thèse, on a un vide, un gros vide, et si on ne s'est pas un petit peu préparé à vivre ce vide et à savoir ce qu'on veut faire vaguement, on n'est pas obligé d'avoir un plan construit tout de suite, on peut tomber un peu de haut parce que la chute est quand même intense. On passe 3 ans, en tout cas en bio, 3 ans minimum, de temps en temps 4, à travailler sur un sujet, on s'implique énormément et une thèse, ça demande beaucoup d'investissement. Et tout d'un coup, c'est fini. Et si on ne s'est pas préparé un petit peu à se poser des questions, je pense aussi ce que j'ai fait pendant ma thèse, qui m'a préparé, c'est me demander, me poser la question, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire et où est-ce que je suis douée? Parce que ça, c'est intéressant, je pense, apprendre à se connaître. Parce que des fois, on pense qu'on est bon à faire des choses et en fait, non. Et c'est important de le savoir, je pense, d'être honnête avec soi-même, de savoir... Mais là, je suis douée, là, moins. Donc, je pense que naturellement, ma personnalité faisait que j'étais plus compatible avec le monde privé qu'avec le monde académique.
Il y a aussi chez ceux qui quittent le monde académique, il y a une période de transition qu'on appelle, moi, à l'époque, on appelle ça le deuil de la recherche. C'est-à-dire qu'il fallait faire le deuil de la recherche parce que c'est tellement stimulant intellectuellement. Le matin, de recevoir la biblio, de discuter avec des collègues, tu as vu cet article, etc., et discuter de science, participer à des séminaires scientifiques avec des mecs des hommes et des femmes super brillants. Et donc, ça stimule, ça nourrit le cerveau, ça nourrit le cerveau. Et vous, d'un coup, vous sortez du système universitaire, du système de la recherche qui est très, très stimulant. Et y a aussi cette part-là où y a un manque, littéralement, de stimulation intellectuelle et tout semble fade, en fait, après. Je ne sais pas si vous avez eu, vous, ce côté-là.
Pas trop, parce que dans les startups, il y a quand même une grosse part recherche.
Démulsion intellectuelle aussi.
Voilà, c'est pour ça que je suis pas allée dans un gros groupe, parce que c'est ce que j'aurais pu faire, hein, tout à fait, aller dans un gros groupe et puis avoir un beau chèque et faire un travail un peu plus routinier, et ça m'intéressait pas du tout. Alors peut-être plus tard, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment eu ce côté-là. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a un petit côté frustrant des fois parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut faire. Et cette curiosité scientifique va être un peu mise à mal. Mais il y a quand même dans la startup une grosse partie recherche et développement. Donc, la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, j'ai été embauchée sur un projet bien spécifique. Et en fait, je ne me suis pas du tout ennuyée parce que le projet, entre guillemets, fallait qu'il aboutisse à la fin. Donc, il faut faire les recherches qu'il faut. Et ce que j'aime dans le privé, c'est le côté vraiment innovation. On est là pour créer.
Oui, pour amener de la nouveauté.
Et voilà. Et on est
là pour
trouver des solutions. C'est vraiment, en fait, on nous appelle chercheurs, mais on devrait nous appeler trouveurs.
Trouveurs de solutions, exactement.
Voilà. Et on est là pour régler des problèmes qui n'ont pas été solutionnés. C'est vraiment, c'est l'impression que j'ai de mon métier, en tout cas.
Et là, justement, maintenant qu'on a fait la transition sur le privé, donc en tant que directeur de recherche ou en tant que chercheur dans le privé, comment ça se passe, la recherche en biologie ou en biotechnologie? Parce que souvent, on arrive à peu près, les doctorants arrivent à peu près à imaginer comment travaille un technicien ou un ingénieur dans le privé, mais ils n'arrivent pas à très bien voir comment s'organise le travail, la recherche d'informations. Est-ce que vous faites la même bibliographie ou la bibliographie aujourd'hui inclut par exemple les brevets aussi ou des choses comme ça? Comment en pratique ça s'organise?
Alors je pense que c'est comme, je dirais que c'est un peu comme c'est multitâche, un peu comme dans une, en tout cas dans une startup, hein, je parle de ce dont je connais, que par rapport à la thèse. Par contre, c'est beaucoup plus structuré, plus organisé. Ça, c'est le côté qui me plaît beaucoup. Donc, il y a le cahier de labo toujours à remplir, mais il y a aussi des rapports scientifiques à faire. Il y a le côté qualité. Il y a vraiment des choses, c'est beaucoup plus carré. Donc ça peut être un peu déstabilisant pour des gens qui, dans l'académique, c'est vrai que c'est un peu, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, même si c'est en train de changer quand même. Il y a beaucoup plus de structure qui est apportée. Mais au quotidien, disons que un des points qui est important à dire, c'est que par contre, dans le privé, on est docteur. On a une responsabilité, en fait. On est embauché en tant que docteur. Donc, on a un travail de docteur. Et je sais que ça, c'est quelque chose c'est un point que j'aimerais évoquer pour les doctorants, qui se rendent compte, parce qu'en France, quand on est dans un laboratoire public, tout le monde est docteur autour de nous, c'est quand même un peu la normalité. Alors que dans le monde extérieur, c'est pas vrai. Personne n'est docteur. Enfin, il n'y a pas une grande majorité de personnes qui sont docteurs. Et ça, c'est un truc qu'il faut prendre au sérieux, parce que quand on est embauché dans le privé, on n'est pas embauché pour être quelqu'un vite fait thésard dans un laboratoire. On est là pour une mission bien précise. On est là pour créer, innover, faire des manips, apporter des solutions. On est là pour effectivement faire de la bibliographie sur des points très précis. On est là aussi souvent pour manager une équipe, parce que on a souvent des postes, quand on est docteur, on a souvent des postes de chef de projet, chef d'équipe, peu importe les noms qu'on leur donne, mais c'est quand même, il y a une grosse partie sur ça. Et je pense qu'un des gros points qui est important par rapport à la transition public-privée, et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire dès le doctorat, c'est penser aux compétences transverses que nous apporte le doctorat. Et elles sont nombreuses, 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 et elles sont très importantes. Et je pense qu'elles sont à mettre plus en avant que le côté scientifique quand on est dans une boîte privée. Parce que, par exemple, rendre un projet dans les temps, c'est quelque chose qu'on fait en doctorat, puisqu'on a 3 ans pour faire un projet. On doit écrire des articles, donc on a des qualités rédactionnelles.
Des demandes de financement.
Demandes de financement.
Avec des deadlines.
Des deadlines bien précises. On a des communications à faire, que ce soit orales ou écrites. Il y a un tas de choses comme ça. On a été souvent, et je recommande en tout cas de le faire en thèse, d'avoir des stagiaires, de travailler en équipe, parce que ça, c'est quelque chose qui est crucial. Apprendre en fait comment travailler en équipe, comment travailler avec quelqu'un d'autre. Il y a un tas de qualités en fait qu'on ne soupçonne même pas, parce que quand on n'y réfléchit pas, c'est la routine, c'est normal dans un laboratoire public. Et ça peut devenir des grandes, grandes, grandes qualités dans un laboratoire privé. Donc, je pense que en tout cas, si je devais embaucher quelqu'un dans notre start-up aujourd'hui, j'axerais beaucoup plus sur les qualités transverses que les compétences scientifiques, bien que c'est toujours intéressant d'avoir un expert dans un domaine. Voilà. Mais après, apprendre des techniques, on sait faire, entre guillemets. Le doctorat, on le fait aussi parce qu'on aime, aime apprendre et surtout comprendre. Donc après, on est capable un peu de... On est aussi flexible. Donc on est capable de s'adapter à un peu tout environnement. Donc, et un des gros points, je pense, qui est crucial pour moi, c'est faire face à l'échec. En tout cas, surtout en bio, je pense. Parce que nos manips, une fois sur l'autre, ça ne marche pas. On a quand même un gros, gros taux d'échecs et il faut y faire face. Il faut quand même avoir le caractère pour ne pas se délapider complètement. Et puis en fait, ça, c'est une grande qualité, parce que ce qui fait que dans une start-up qui est quand même un environnement où il y a beaucoup de challenges, ben on est capable de continuer et de ne pas s'écrouler et de faire face à tout ce qui nous arrive et de trouver des solutions.
Vous parliez justement d'Aquidog, l'association dont vous êtes membre et représentante aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous en parler? Quelles sont vos missions et comment vous accompagnez les doctorants? Et surtout, troisième question que j'aimerais aborder, c'est en ces temps de Covid, comment s'est réorganisée la recherche doctorale dans les différentes disciplines, si éventuellement vous aviez... quelques infos, ce serait très, très éclairant.
Alors, Aquidoc, en fait, j'ai commencé à être membre d'Aquidoc au cours de ma deuxième année de thèse, et je regrette de ne pas l'avoir fait encore plus tôt, parce que la deuxième année, elle commence à être compliquée, et ensuite, en troisième année, on s'écarte un petit peu. Ensuite, pendant mes années en Angleterre, j'ai un petit peu pris du recul, et là, je reviens membre et j'essaye de me remettre dans les membres actifs. Donc, c'est une association multidisciplinaire. Donc, ça, c'est important, parce qu'on essaye vraiment de regrouper tous les doctorants et jeunes docteurs de toutes les disciplines, donc même les sciences humaines et sociales, parce qu'on se rend compte que les problématiques sont à peu près les mêmes partout. Donc, ça, c'est vraiment intéressant et enrichissant, en fait, d'avoir plein de mondes différents qui travaillent ensemble. Le but de Aquidoc, c'est d'ouvrir un peu les connexions entre le monde académique et le monde privé. Donc, on a deux types d'événements majoritaires. Donc, on a les after labs, qui sont, on va dire, une fois tous les mois et demi, quelque chose comme ça, où on a une question précise. On invite des docteurs à répondre à ces questions. Et donc, en temps hors Covid, on a donc les doctorants, où souvent, peut-être, on peut avoir des personnes en master aussi. Et donc, c'est un échange vraiment des questions très précises, et c'est très enrichissant, parce que c'est la vie réelle, c'est la réalité, c'est des gens qui sont sur le terrain qui répondent.
Et cet événement, c'est en fait donc que vous avez donc des doctorants dans différentes disciplines qui vont, entre guillemets, faire une mini-conférence à destination du grand public, à destination des professionnels, comment...
Non, alors c'est des docteurs, souvent. On demande que ce soit des docteurs, des personnes qui ont fait un doctorat, qui sont dans le monde privé.
Ah, d'accord. OK.
Qui viennent témoigner, en fait, sur une question précise. Ça peut être l'intérêt de faire un post-doc, ça peut être aller travailler à l'étranger. Ça peut être vraiment très, très vaste. Comment réussir sa thèse, des choses.
Et ça se passe en workshop. Bon, là, c'est le Covid, mais j'imagine que À l'époque, c'était en workshop fermé ou c'était filmé en conférence et vous rediffusez
Non,
sur une chaîne YouTube? D'accord.
ouais, c'est fermé. On est dans une salle. On demande des salles à l'Université de Bordeaux parce qu'on est en étroit lien avec l'Université de Bordeaux qui nous aide beaucoup, qui nous finance. Et parce que aussi, Bordeaux a créé un collège des écoles doctorales. Alors, je pense que c'est national, mais je ne suis pas sûre. Et donc, il y a cette volonté aussi, en fait, dans le monde académique, de faire sortir un peu les doctorants de leurs labos et de leur montrer ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas le faire qu'avec les doctorants, il faut le faire avec les encadrants aussi, parce que c'est quand même tout ça, ça fonctionne, c'est un système qui fonctionne ensemble. Donc,
Absolument.
c'est vraiment important. Moi, j'ai pas eu cette problématique-là en ayant un directeur de thèse qui a été chef d'entreprise. Donc, c'était vraiment agréable, mais je sais que certains peuvent faire face à. C'est un monde inconnu et ça peut faire peur, alors qu'en fait, il y a plein de choses. Les doctorants sont enfermés dans leur monde et ils pensent que on peut rien faire avec un doctorat, alors qu'en fait, on peut faire plein de choses. Les after labs qu'on organise, en général, ça peut dépendre selon les thématiques, selon la période de l'année aussi. On peut des fois avoir une cinquantaine de personnes qui peuvent venir. Et ensuite, après, on organise un petit pot pour que tout le monde discute de manière plus informelle. Et le gros événement, une fois par an, qu'on organise, c'est le forum Aquidoc. Donc là, c'est vraiment rencontre entre entreprises et doctorants ou jeunes chercheurs. Donc, il peut y avoir une partie recrutement. Il y a certaines entreprises qui viennent pour recruter. Et le matin, on a aussi une partie conférence, donc qui est souvent animée par Mathieu Roubaud. Et donc, on a cette voilà, on essaye de dans un seul et même lieu réunir le monde privé pour. Alors, ça peut être aussi pour des conseils. C'est pas forcément que pour du recrutement. Ça peut être voilà, je viens représenter mon entreprise pour en fait plus vous parler de ce qu'on fait. Et quelles sont les problématiques? Et sachant que en général, on essaye d'avoir des docteurs qui soient présents pour qu'ils puissent témoigner. Après, des fois, c'est pas le cas, mais ça peut être aussi pour les entreprises un moyen de venir voir qui sont les futurs chercheurs de demain. Et ça, c'est intéressant aussi, en fait. Parce que il y a le monde de, effectivement, les doctorants souvent ne connaissent pas très bien le monde de l'entreprise, mais en France, l'inverse est vrai aussi.
Absolument.
C'est-à-dire que l'entreprise ne connaît pas bien ce que c'est d'être docteur non plus.
Est-ce que vous, avec Aquidoc, vous avez des partenariats ou des événements communs avec notamment, par exemple, la SAT de Bordeaux ou l'incubateur de start-up universitaire ou,
Ils sont souvent toujours invités, ça c'est sûr,
D'accord.
toujours présents. Après, on a plusieurs partenariats. Je les ai pas forcément en tête maintenant, mais il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup d'organismes et d'associations qui font un peu la même chose que Aquidoc, même que ce podcast, en fait, c'est
Bien
vraiment
sûr.
la volonté de démystifier et d'ouvrir le monde sur le doctorat. Et d'ailleurs, on va essayer un peu de débroussailler tout ça pour parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'organismes. Qui ont ce rôle-là. Et donc, nous, on essaye de toujours les inviter ou d'avoir des partenariats avec eux parce que c'est vraiment très, très intéressant.
Là, je viens d'employer deux mots techniques, entre guillemets, et je vais les démystifier là tout de suite pour l'audience. SAT, ces sociétés de transfert de technologie, ce sont des sociétés qui sont financées en partie par votre université et par l'État, et par des acteurs privés également, des industriels. Et le rôle des SAT, c'est de gérer la propriété intellectuelle de la recherche universitaire à laquelle elle est rattachée. Par exemple, la SAT de Bordeaux, elle va gérer les brevets. Et les découvertes qui sont faites dans les laboratoires qui sont potentiellement valorisables à travers une entreprise. Et quand on dit à travers une entreprise, vous avez deux axes. Un, c'est l'octroi de licence à des entreprises, notamment des grands industriels. Donc là, c'est la valorisation va se faire à travers des royalties qui vont revenir à l'université aux chercheurs ou à travers la création de startups. Donc là, c'est surtout en général l'incubateur de votre université qui s'en occupe. Et donc là, je pense qu'on va être d'accord. Je dis très souvent à tous les doctorants et même aux étudiants un peu avant, master, d'aller voir les personnels, de prendre contact avec le management de la SAT ou de l'incubateur. Parfois, c'est la même entité, hein, ça dépend des universités, pour discuter avec eux de la création d'entreprise, parce que vous pensez souvent que vous êtes dans du fondamental et ce que vous faites n'est pas applicable. En fait, c'est faux. Il faut aller discuter avec ces gens-là. Vous verrez qu'ils vont vous ouvrir des opportunités. Les opportunités se créent par vous-même en prenant contact avec les personnes qui sont en charge.
Et d'ailleurs, même au sein des organismes, alors moi, je, en tant que biologiste, je connais surtout le CNRS et l'INSERM. Il y a l'INSERM Transfert, par exemple.
Absolument.
Ou CNRS Innovation, je pense. Mmh. C'est des organismes, même au sein, en fait, des organismes de recherche qui s'occupent de ça. Et il y a aussi des concours organisés. Donc, par exemple, il y a le IPHD.
Absolument, par la BPI.
France.
Très, très bon concours, ouais.
C'est ça. Donc tout ça, c'est hyper intéressant, mais il faut avoir l'information en fait. Et quand on l'a pas, c'est difficile. Donc pour avoir les informations aussi, moi ce que Akidoc m'a apporté, c'est d'apprendre à faire mon réseau, d'apprendre à aller voir les gens, à discuter avec eux. Et c'est comme ça que j'ai appris plein de choses en fait, juste par la curiosité d'aller discuter avec les gens.
Je mettrai en lien. Une vidéo d'un designer, consultant designer qui s'appelle Rémi Rivas, c'est un garçon exceptionnel. Je vous invite tous à aller voir ses vidéos, qui est consultant en innovation, qui a fait une vidéo sur comment développer son réseau. Et je pense que cette vidéo est un masterpiece, comme sait faire Rémi. Je le mettrai en lien pour résumer en une minute. Il explique ce que c'est que cette notion de réseau. Parce que souvent, quand on dit réseau, quand on ne sait pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Il faut que tu fasses partie du Bilderberg, de la franc-maçonnerie. Non, non. Le réseau, c'est la personne que tu connais. Il peut te recommander. Mais ce n'est pas forcément Bill Gates. Ça peut être n'importe qui. Donc, je mettrai le lien parce que la vidéo est vraiment excellente et elle peut nourrir la réflexion de beaucoup de monde. Donc oui, donc, sur le réseau, oui, justement.
En parlant de réseau, c'est comme ça que j'ai trouvé mon travail en fait, à la sortie du doctorat. J'ai contacté les gens avec qui étaient dans le laboratoire en disant aussi est-ce que vous connaissez des gens qui travaillent dans le domaine du vasculaire. Et j'ai eu plusieurs contacts qu'on m'a donné. Donc j'ai contacté par exemple Stéphanie, en fait je l'ai contactée sur LinkedIn. Et à l'origine je lui demandais en fait le nom de quelqu'un d'autre qu'elle connaissait. Et en fait ça s'est arrêté là. Parce qu'on s'est contacté et elle m'a dit mais moi en fait je viens d'avoir un financement et j'aimerais vraiment qu'on discute plus sérieusement de ce que tu fais au sein de ta thèse. Et voilà, on a discuté plusieurs fois et j'ai fini par l'inviter à venir à ma soutenance de thèse. Et en fait a servi d'entretien, je pense que un long entretien.
Bon, il y avait le pot à la fin pour vous faire pardonner.
Donc, en fait, on s'est rencontrés comme ça et je pense que j'ai eu la chance de la rencontrer parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et ensuite, donc on a travaillé, elle était CEO dans l'entreprise. Moi, j'étais chercheuse à ce moment-là. Et ensuite, quand l'entreprise a fermé, elle a décidé de créer une entreprise et elle m'a demandé d'être CSO au sein de cette entreprise-là. Et je pense que... C'est quelque chose sur lequel je veux vraiment insister un peu, c'est que c'est pour ça que j'insiste sur l'humain et les relations humaines, parce que quand on est un binôme, on est une équipe, on fonctionne vraiment très bien ensemble et je pense que tous les challenges que nous apporte la startup, notamment en temps de Covid, tout ça s'efface un peu parce qu'en fait on s'entend bien, on arrive à travailler ensemble. Alors on est deux Françaises qui travaillons en Angleterre, mais ça, c'est pas grave. Après, des fois, ça nous apporte justement cette petite complicité où on peut se faire des blagues de française. C'est vraiment... pour moi, la startup, c'est plus que juste de la science. C'est aussi Stéphanie qui est brillante et qui se démène pour que tout ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment important parce qu'au quotidien, dans l'équipe vraiment exécutive, on est toutes les deux. Et quand on a la chance de rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend bien et avec qui ça fonctionne et que ça avance, c'est précieux en fait.
Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Notamment en temps de Covid.
Oui, qui a impact. Alors justement sur le Covid, et puisque vous êtes membre d'Akidoc, vous avez donc accès à pas mal de doctorants. Comment s'est réorganisé à minima, je dirais, la recherche dans les différentes disciplines? J'imagine que ça va être très dur pour les doctorants.
Alors pour les doctorants, oui, je pense que ça a été très dur, notamment lors du premier confinement. J'ai l'impression que le deuxième, les gens se sont un petit peu plus réorganisés, etc. Mais c'est difficile, notamment dans la bio, parce que voilà, on doit être à la paillasse. On ne peut pas
C'est
faire
ça.
nos manips chez nous, dans notre cuisine, ce serait bien, mais c'est pas
La bio et
possible.
les chimistes aussi, hein, il ne faut pas les oublier.
Exactement, les chimistes.
Et les physiciens expérimentalistes, puisque eux aussi, ils ont besoin de paillasse, hein, donc ils ne peuvent
Mais
pas
tous les
faire.
gens en fait qui ont besoin de paillasse pour
C'est
travailler,
ça.
ou même des gens qui ont besoin d'être sur le terrain, de faire des interviews, d'aller faire des fouilles archéologiques, ou je ne sais quoi. Vraiment tous les gens qui ont besoin d'être sur place, ça a été compliqué, je pense. Après, au sein de donc nous, c'est pour ça aussi qu'à Quidoc, on essaye de. Hier soir, on a organisé un apéro pour que les gens, parce que je pense que les gens se sentent un peu isolés.
Apéro virtuel, hein, je le dis aux
Apéro
autorités
virtuel, oui.
qui vous envoient
Surtout.
pas le GIGN. Non, non, il y a pas une soirée secrète de doctorant quelque part.
Non, 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 sur Zoom, tout le monde avait, s'était servi son verre de vin, chacun chez lui. Donc, c'est pour faire un peu du lien social, parce que c'est vrai que ça fait c'est une grande partie du doctorat aussi, d'être dans un labo avec d'autres jeunes. Ça, c'est une des choses qui a été assez difficile pour moi en partant dans une start-up. C'est qu'on part d'un laboratoire où il y a peut-être 40 jeunes, puis d'un coup, on n'est plus beaucoup. Donc, le lien social, c'est vraiment important. Il faut en profiter pendant son doctorat, de travailler tous ensemble et d'en profiter. Après, là, en temps de Covid, je pense que c'est très difficile. Je pense souvent, très, très souvent aux étudiants. C'est difficile ce qu'ils sont en train de vivre parce que, y a le côté social qui est énorme pendant les études. Après, par rapport au doctorat, je pense qu'ils ont pris du retard énorme, notamment, alors, je parle de ce que je connais, donc en biologie. Ouais, très, 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 très difficile. Après, faut qu'ils se disent qu'ils sont pas seuls, qu'il y a plein de monde, même l'université de Bordeaux, en tout cas à Bordeaux, est là pour les aider. Donc, les universités sont là, et il faut pas rester seul dans son coin. Il faut aussi, je pense, en parler avec son directeur de thèse si ça va pas, et parce que le directeur de thèse est là pour ça aussi, en fait.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là et qui nous écoutent, je voudrais quand même rappeler qu'on est en train de parler de recherche avec des applications dans nos vies, la recherche biomédicale, la recherche industrielle. Donc tout ça, évidemment, aura énormément d'impact sur le progrès et nos vies. Et on ne s'en rend pas encore bien compte de l'impact, parce que c'est mondial, hein, en fait. Hein, c'est mondial. Hein, donc c'est toute la recherche mondiale qui a été ralentie d'un coup, qui a ralenti et qui a pris du retard.
Ça.
Et donc des solutions qui mettront beaucoup plus de temps à venir sur le marché.
Exactement. Et c'est pour ça aussi que il y a ce côté-là aussi en France qui est un petit peu dommage, c'est qu'on est un peu à la traîne quand même. Je peux faire le parallèle avec l'Angleterre et je peux vous dire que ils sont quand même au niveau recherche, c'est assez incroyable.
Oui.
Si on pouvait avoir plus de financement et si on pouvait faire ça va pas assez vite en France, on n'est pas assez valorisé et il faut vraiment que ça change en fait, que ça aille plus vite. Alors après il y a le courant deep tech qui est en cours, donc il y a des choses qui sont en train de se faire et c'est bien,
Absolument.
il est temps en fait.
Moi, vous savez que c'est à Épistémie Entrepreneur, c'est notre fer de lance, c'est vous encourager les doctorants à aller vers la deep tech, soit en tant que ingénieur, soit en tant que chercheur, soit en tant que créateur de start-up. Aujourd'hui, les SAT ont les tiroirs pleins de brevets, une partie est valorisée par l'octroi de licence vers des industriels, une partie par la création de start-up, mais il en reste encore plein. Il y a énormément de capacité d'innovation et il faut qu'il y ait des entrepreneurs pour les porter. Et qui mieux que le doctorant qui connaît la science, s'il se donne un peu, je dirais, la peine de s'intéresser au monde économique, on peut changer véritablement notre monde et passer du 21e siècle au futur, à une utopie futuristique.
Faut être bien entouré et puis faut avoir beaucoup de faut aimer le challenge, je pense.
Absolument.
Mais en même temps, quand on fait un doctorat, je pense qu'on aime ça. Donc, faut être bien entouré et avec du travail, voilà. Faut pas avoir peur d'y aller. Ça, c'est un monde qui fait un peu peur, mais bon, là, en plus, on est quand même en temps de Covid. Les temps sont incertains. Je ne vais pas mentir que nous, au niveau de la start-up, c'est quand même très, très un gros challenge. Mais il faut y croire parce que si on croit à ce qu'on fait au quotidien, il faut se battre pour, en fait.
Absolument.
Et j'espère qu'on pourra vraiment faire des belles choses parce que on a un projet qui est génial et donc il faut que ça marche et on a vraiment envie que ça fonctionne, quoi. En tout cas, on a la volonté.
Absolument, vous attaquez un problème critique qui nécessite une solution qui fasse la différence. Donc, effectivement, c'est le sujet des startups du PEC, s'attaquer à des problèmes critiques en développant des solutions nouvelles, sharp.
On voit bien avec la pandémie qu'on a besoin, en fait, de ces choses-là parce que les gens… c'est difficile, en fait, le monde scientifique. Des fois, on est vu un peu comme dans un monde à part. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que on est tous touchés par ça.
Absolument.
Les maladies, les choses qui nous entourent, c'est terrible, mais ça touche tout le monde. Et c'est vrai que, mais il y a les vaccins qui ont été faits notamment pour le Covid, c'est des chercheurs qui ont travaillé dessus et qui ont travaillé comme des fous, en fait, pour développer des solutions vite, vite et bien. Alors, vite, parce qu'ils ont eu un budget incroyable, en fait, et c'est ça qui a fait la différence, je pense, le budget illimité. Et donc, on se rend compte de… C'est dans ces moments-là de pandémie, on est quand même dans une épidémie mondiale, on se rend compte de la valeur et de l'importance de la recherche. En fait.
Absolument. Eh bien, ça, c'était, je pense, un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Laure. Je tiens à vous remercier pour le temps que vous nous avez offert. Je mettrai tous les liens en description de la vidéo. Donc, si est-ce qu'on peut vous contacter, si je vous mets le lien de LinkedIn, ça vous êtes disponible à discuter avec des doctorants ou avec d'autres personnes.
Avec grand plaisir.
Très bien, je mettrai les liens. C'est peut-être conclure sur un conseil. Un conseil, si vous aviez un seul conseil à donner à un jeune scientifique.
Un seul conseil, ouh là là. d'y croire, de pas lâcher et de vraiment d'y croire et de sentir fier d'avoir fait un doctorat parce que c'est une belle aventure, c'est compliqué mais ça vaut le coup.
Et vous m'avez également dit quelque chose en antenne, c'est d'aller voir les entrepreneurs, discuter avec eux.
Exactement.
Voilà.
De sortir de sa zone de laboratoire et de s'intéresser à ce qui se passe autour et de la vie réelle. Et que non, le postdoc n'est pas la seule solution suite à un doctorat qui a un milliard de choses à faire. Et que il faut pas hésiter à aller voir les gens. Et les gens sont gentils.
C'est ça.
Donc, les gens vont répondre et vont être ravis de discuter avec les doctorants.
Parfait. Merci infiniment, Laure.
Et
puis je dis à ceux qui nous regardent, vous connaissez la chanson des youtubeurs, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, voilà, vous savez, vous êtes plus jeune que moi, vous savez faire. Merci beaucoup, à bientôt Laure.
Merci, à bientôt.
À très bientôt.